Bienvenue dans l'épisode 21, le premier épisode en français du podcast Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse. Nous souhaitons aussi parler des droits humains en Suisse romande, après 20 épisodes réalisés en allemand. Et nous nous intéressons aujourd'hui à un droit humain essentiel, le droit de manifester. Nous en avons déjà parlé dans le deuxième épisode du podcast, mais nous constatons que ce droit est de plus en plus remis en question dans le monde entier et en Suisse aussi. Je m'appelle Jeanne Durafour et je vous accompagne dans ce premier épisode du podcast Article 7 en français. Bienvenue Anita Go.
Bonjour, merci.
Anita Go, tu es juriste au sein de la section Suisse d'Amnesty International et tu es responsable de la campagne pour le droit de manifester. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous rappeler ce qu'est une manifestation ?
Oui, alors une manifestation au sens très large, c'est un événement. Dans l'imaginaire collectif, on imagine souvent un groupe de personnes qui défilent dans la rue avec des messages, des slogans, des banderoles. Alors cette idée de groupe, elle est juste, de même que celle d'exprimer un message, car quand on parle du droit de manifester, on parle en fait de la combinaison de deux libertés. La liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression. Donc, manifester, finalement, c'est se réunir à deux personnes au moins pour exprimer une opinion commune de manière pacifique, c'est-à-dire non violente. Une manifestation, par contre, peut se dérouler dans tout type d'espace. L'espace public, c'est celui auquel on pense en premier, comme la rue, mais aussi dans l'espace privé ou en ligne. Et on n'est pas du tout obligé de marcher. Ça peut être un sit-in, ça peut être un blocage, ou ce qu'on appelle plus communément un rassemblement statique.
Le 23 juin 2023, la militante syndicaliste à la retraite Manuela Catani organise une manifestation de soutien à un militant écologiste incarcéré à la prison de Chandolon. 6 mois plus tard, elle reçoit une amende de 950 francs pour non-respect des modalités, charges ou conditions d'une manifestation sur le domaine public et refus d'obtempérer. Le cortège s'est en effet arrêté 3 fois. La première fois 12 minutes, la deuxième 4 et la dernière 7, alors que l'autorisation stipulait que le défilé ne pouvait pas s'immobiliser. La manifestation s'est terminée 4 minutes après le délai imposé. Manuela Catani décide donc de faire recours pour défendre son droit de manifester. Anita, ce cas à Genève, c'est un cas particulier ou alors les manifestations sont encadrées de manière aussi stricte en Suisse ?
Alors malheureusement, Jeanne, il ne s'agit pas d'un cas particulier. En fait, c'est l'exemple parfait du régime d'autorisation en Suisse qui pose de longues conditions, une longue liste de conditions aux organisateurs, organisatrices de manifestations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Suisse, le droit de manifester, c'est d'abord vu comme une question sécuritaire et ce qu'on appelle un usage accru du domaine public, c'est-à-dire une utilisation de l'espace public qui dépasse celle que je fais normalement en allant au travail, en allant faire mes courses ou en me baladant dans la rue. Et du coup, parce que c'est une question sécuritaire, ce sont les cantons qui sont compétents, voire les communes, et qui finalement impose ce régime d'autorisation qui est du coup couplé à des conditions et de potentielles sanctions. En fait, et c'est pour ça que j'avais donné une interprétation, une définition très large de la manifestation au début du podcast, dans la majorité des cantons, quand on parle de manifestation, on parle de manifestation comme d'un événement. Et du coup, les manifestations, au sens du droit de manifester, elles sont soumises exactement aux mêmes règles que tout autre type d'événement dans le domaine public, comme les fêtes de quartier ou les courses sportives. Ça veut dire qu'en fait, si je veux organiser une manifestation pour défendre une certaine cause, je vais devoir faire une demande selon un cadre précis, respecter certains délais, remplir un ou plusieurs formulaires et payer souvent des émoluments administratifs. En tant que personne organisatrice, je mets également mon nom et je prends la responsabilité individuelle de cette manifestation. Donc je suis la seule interlocutrice des autorités et si quelque chose n'est pas respecté pendant la manifestation, c'est moi la seule responsable. En soi, ce système d'autorisation, c'est déjà contraire au droit international des droits humains. Et je voulais quand même citer ce que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dit dans une interprétation du pacte des droits civils et politiques. Devoir demander l'autorisation des autorités met à mal le principe selon lequel le droit de réunion pacifique est un droit fondamental. Et c'est bien de ça dont il est question. Un droit humain, il nous est acquis parce qu'on est un être humain. Du coup, on devrait pouvoir l'exercer tout simplement, sans avoir à demander l'autorisation d'une autorité quelconque. C'est comme dire, avant d'exercer ma liberté d'expression et de donner mon opinion, il faudrait que je demande l'autorisation d'abord à quelqu'un. Par contre, quand je décide de le faire à deux dans la rue, c'est bien ça qui se passe. Il faut que je demande l'autorisation à quelqu'un. Et il peut y avoir des conditions de toutes sortes. Là, vous avez évoqué le cas Genevois, où l'autorisation avait donné un horaire très précis de début et de fin et avait imposé comme condition que le cortège ne s'arrête pas. Selon les cantons, ce type de condition, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir jusqu'à 50. On trouve des choses un petit peu ubuesques, comme les lieux devront être laissés en parfait état de propreté. Imaginez ce que ça veut dire quand on parle d'un cortège de milliers de manifestantes pour la grève féministe. Donc s'il y a des papiers par terre, ou si quelqu'un a fait tomber je ne sais quoi, moi, organisatrice responsable individuelle, je pourrais être poursuivie pour non-respect des conditions de l'autorisation. Dans d'autres cantons, par exemple à Fribourg, dans le cadre d'une manifestation pour le cessez-le-feu à Gaza, une des conditions était que les affiches et les banderoles ne devront être diffusées qu'en français ou allemand. Donc en fait, si quelqu'un vient à cette manifestation avec une pancarte « Free Palestine », potentiellement, la personne qui organise la manif peut être poursuivie pour non-respect des conditions de l'autorisation. On se rend bien compte que c'est un régime, finalement, qui fait peur. Enfin, qui d'entre nous a envie de mettre son nom et de se porter garant pour des milliers de personnes qu'on ne connaît pas personnellement? Voilà, ça, c'est vraiment l'effet dissuasif du régime d'autorisation. C'est ça qui s'est passé pour Manuela Catani à Genève. Elle a été choisie comme unique responsable du fait qu'un cortège, à un moment, ait décidé de s'arrêter, de prendre 4 minutes pour faire un petit discours et de dépasser de 4 minutes l'horaire qui avait été imposé dans la décision d'autorisation.
Le 6 octobre 2025, le jugement dans l'affaire Manuela Catani est rendu. Le tribunal de police considère que, même si l'organisatrice de la manifestation n'a pas respecté l'autorisation en tout point, il serait contraire à l'article 22 de la Constitution suisse et à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent le droit de manifester, de la condamner. Toutefois, on constate globalement que le droit de se réunir pacifiquement est sous pression. Aux États-Unis, plus de 3000 personnes, la plupart étudiants et étudiantes à l'université, se sont fait arrêter parce qu'elles avaient organisé des manifestations pour dénoncer le génocide commis par Israël à Gaza. En Europe aussi, la situation se dégrade. Amnesty International s'inquiète de cette, je cite, « érosion de la liberté de manifester », en Suisse aussi. Anita, pourquoi ce droit est-il si important en fait ? En Suisse, il existe déjà de nombreux dispositifs démocratiques qui permettent justement d'exprimer son avis, non ?
Ce droit, il est fondamental parce qu'il s'agit encore une fois de cette combinaison entre la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ni plus ni moins le droit de donner son opinion à au moins deux personnes. Comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, ces libertés-là font partie des valeurs fondamentales d'une société démocratique, parce qu'en fait, il s'agit là aussi du premier rempart contre potentielle montée de l'autoritarisme. C'est un droit qui permet non seulement de participer facilement à la vie politique, finalement, c'est quelque chose qui est à la portée de tout un chacun. Je n'ai pas besoin de faire partie d'un parti politique, d'avoir les bonnes connexions pour pouvoir influencer finalement le destin de mon pays, ou avoir suffisamment d'argent pour lancer des campagnes pour une initiative que j'aimerais proposer au peuple suisse. Je n'ai pas non plus besoin d'être majeur et je n'ai pas besoin d'avoir la nationalité suisse. Ça me permet aussi de réagir en temps réel à l'actualité, typiquement ce qui s'est passé dernièrement avec la flottille à Gaza. Et puis en plus, ce n'est pas seulement un droit pour les personnes qui manifestent. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'être informé. Quand les personnes manifestent et expriment une opinion, c'est aussi permettre à d'autres d'entendre des points de vue, d'être sensibilisés à des problématiques qu'ils ne connaissaient pas forcément.
Mmh.
Quoi de mieux dans un pays démocratique comme la Suisse que de ériger ce droit au plus haut dans le rang de nos valeurs.
Le 2 octobre, en ville de Genève, une manifestation spontanée, pacifique, en faveur de la Palestine a lieu. Le cortège, qui compte environ 3000 personnes, passe sur le pont du Mont-Blanc quand la police fait usage de la force contre les manifestants et manifestantes, en utilisant notamment du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Amnesty a condamné ces actes. Anita, la police avait-elle le droit d'agir ainsi dans ce cas ?
Alors, la police genevoise en avait peut-être le droit, selon la loi genevoise, mais elle n'en avait a priori pas le droit, selon le droit international des droits humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le cas d'une manifestation pacifique, les autorités et la police ont l'obligation positive de protéger et de faciliter le déroulement d'une manifestation. Dans le cas du 2 octobre à Genève, notre analyse nous porte à comprendre que pendant le tout début de la manifestation, donc dès le rassemblement statique jusqu'à l'arrivée sur le pont, la police genevoise fait exactement ça, c'est-à-dire qu'elle encadre, elle protège les manifestants de la circulation routière et leur permet d'avancer en toute tranquillité. Les questions qu'on se pose finalement à partir du pont est d'abord pourquoi y a-t-il ce blocage ? Un blocage finalement, au niveau du droit international, c'est une restriction. Et une restriction doit être justifiée. Donc c'est vrai que déjà, du point de vue du droit international, si cette restriction n'est pas justifiée, alors il n'y a aucune raison d'utiliser la force parce que les manifestants souhaitent continuer à passer. Donc ça, c'est vraiment la première question et celle qui nous fait déjà douter du droit, si vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que vous m'avez posé la question, qu'a la police d'agir ainsi. Mais imaginons que cette restriction était justifiée. Qu'est-ce qu'on a entendu, finalement, du côté de la police ? C'est qu'il y avait des individus violents, et du coup, la police a dû recourir à la force. Pourtant, et au dire de la police, il s'agissait, en gros, de 150 personnes sur un cortège de 3000 personnes. Donc, une toute petite minorité de personnes. Dans un tel cas, le rassemblement reste pacifique, même si quelques personnes ont un comportement violent. Et donc là, ce qu'il aurait été attendu de la police, ça aurait été de finalement extraire les personnes au comportement violent de la manifestation afin de permettre aux autres manifestants de continuer à manifester pacifiquement et afin de les protéger. Or, ce qui s'est passé, c'est que les moyens de contrainte, comme dit la police, en tout cas le recours à la force et les armes à létalité réduite qui ont été choisies, telles que le gaz lacrymogène et le canon à eau, ont eu un impact sur l'ensemble du cortège présent. Ce sont de toute façon des armes qui sont indiscriminées, on ne peut pas viser vraiment des gens avec du gaz lacrymo. Donc pourquoi avoir utilisé ces armes-là à ce moment-là, alors que ça allait impacter au moins 2850 manifestants pacifiques.
Dont des familles.
Dont des enfants, dont des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite, dans un lieu, c'est-à-dire sur un pont, où la foule était compacte, qui ne peut pas finalement être considéré comme un espace qui permet de se disperser. Alors justement, l'utilisation de gaz ou de canons à eau, ce sont des stratégies pour disperser une foule. Disperser une foule à un endroit où elle ne peut pas se disperser nous force à nous poser quelques questions. Et c'est là où on a effectivement jugé que le recours à la force avait été injustifié, sans même avoir besoin de regarder s'il avait été proportionnel, en fait. On s'est arrêté un petit peu là dans l'analyse.
En 2023, l'UDC zurichoise lance l'initiative Anti-Chaos. Son but ? Durcir le régime d'autorisation pour les manifestations et faire payer les coûts des interventions à la police par les personnes qui organisent et qui participent à ces manifestations. En 2024, l'initiative est refusée, mais le contre-projet, qui restreint aussi largement le droit de manifester, est accepté. La discussion a maintenant lieu à Berne, après la manifestation du 11 octobre 2025, en soutien à la Palestine. Des « Black Blocs » ont fait preuve de violence, en causant notamment des dégâts matériels. À qui revient la responsabilité dans ces situations ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de chaos pour décrire les manifestations qui se déroulent en Suisse ?
Oui, alors merci pour cette question, Jeanne, parce que dans le discours ambiant, que ce soit dans les médias ou différentes personnalités politiques, on entend énormément de raccourcis et d'amalgames qui amènent finalement à une simplification extrême de situations qui sont forcément un petit peu plus complexes et surtout qui finissent par stigmatiser toutes les personnes qui manifestent en général à cause de certains comportements particuliers. Le cas zurichois, il est assez intéressant parce qu'en fait, il s'agissait aussi d'employer cette rhétorique autour de la peur pour contrer finalement une décision qu'avait prise la ville de Zurich et qui venait de permettre en fait à toute manifestation de moins de 100 personnes de se dérouler sans avoir besoin d'autorisation. Puis s'il y a bien un endroit dans le canton de Zurich qui a de l'expérience dans les manifestations, c'est bien la ville de Zurich. Donc il y avait aussi un autre intérêt politique de revenir sur une décision qui était bien plus conforme au droit international que cette initiative et le contre-projet. Surtout que l'immense majorité des manifestations qui se déroulent en Suisse, ce sont des manifestations pacifiques. Une manifestation, elle reste pacifique tant qu'il n'y a pas de violence grave et généralisée dans l'ensemble du rassemblement. Alors oui, il peut y arriver que des personnes aient un comportement violent. Et là, s'applique finalement le droit commun, c'est-à-dire qu'il revient à la police et à la justice de faire leur travail en cas d'infraction avérée. Et le droit pénal suisse qu'on a permet parfaitement de poursuivre ce genre de cas. Quand on parle finalement du droit de manifester, on n'est pas en train de dire que toutes les personnes qui participent à une manifestation ont une quelconque immunité pénale. Évidemment que si une personne enfreint la loi, casse ou blesse d'autres personnes, il faut qu'elle soit poursuivie. Mmh. Par contre, ce n'est pas parce que certaines personnes ont un comportement violent qu'il va falloir amalgamer tous les manifestants dans le même groupe et limiter finalement un droit humain fondamental à tout le monde. Donc ce genre de discours très stigmatisant qui font passer tous les manifestants de Suisse pour des personnes violentes, finalement, ça crée énormément de divisions dans la société et ça sert aussi de prétexte à une limite à nos droits humains à tous. Donc, on est assez content au moins que l'initiative ne soit pas passée. On reste très préoccupé par le contre-projet. On était un peu rassurés du fait que les autorités aient dit que la loi d'application serait en conformité avec le droit international. Donc on attend de voir finalement les conséquences pratiques de ce qui s'est passé à Zurich.
Les communes, les cantons avancent parfois des arguments sécuritaires pour limiter le droit de manifester. Le 16 septembre 2025, par exemple, la ville de Sion a refusé d'autoriser une manifestation prévue le 1er novembre contre le génocide à Gaza. Y a-t-il des motifs justifiés pour lesquels on peut interdire une manifestation, Anita ?
Alors oui, on peut interdire une manifestation. Le droit de manifester, ce n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des restrictions. Maintenant, une interdiction, c'est la restriction la plus forte. Ça doit toujours être une mesure de dernier recours. Et pour être justifiée, elle doit répondre à trois conditions cumulatives. C'est-à-dire que d'abord, elle doit être prévue par la loi. Donc il doit y avoir une loi qui permette d'interdire la manifestation. Elle doit poursuivre un but légitime. Alors, la protection de l'ordre public, de la sécurité font partie de ces buts légitimes. Mais surtout, troisièmement, la mesure, par exemple l'interdiction, doit être nécessaire pour atteindre le but et proportionnelle. C'est-à-dire que s'il y a une interdiction pour des raisons sécuritaires, alors il faut expliquer en quoi aucune autre mesure ne serait à même de remplir cet objectif sécuritaire. En quoi est-ce qu'il n'y a rien de moins intrusif ? Et sur la base d'une évaluation précise, ça ne doit pas être en général, il y a un risque sécuritaire, donc on interdit. Dans ce cas-là, l'interdiction ne serait pas justifiée. Et c'est vrai que le cas de Sion, il soulève pas mal de questions. Si je me base simplement sur la décision de la ville qui a été publique, il y a 4 motifs qui ont été avancés pour interdire cette manifestation. La première raison, c'était de dire qu'il y avait déjà eu une interdiction pour une manifestation similaire de l'une des parties et que du coup, il paraissait difficile d'accorder une autorisation à l'autre partie. Ce qu'on a compris, c'est que l'une des parties fait référence en fait à une manifestation pro-israélienne. Bon, là, il y a déjà un vrai questionnement sur le sens des parties, les parties au conflit. Enfin, là, on parle de manifestations et de personnes qui expriment une opinion. Donc, on peut exprimer une opinion pro-israélienne et exprimer une opinion pro-palestinienne sans être partie en tant que telle au conflit. Mais surtout, comme je l'ai dit, le droit de manifester, c'est un droit humain. Les autorités ont l'obligation de le faciliter, de le protéger et donc surtout de ne pas juger du contenu de l'opinion qu'on veut exprimer. Or là, on a l'impression qu'il y a un mélange avec la neutralité suisse de dire on n'a pas laissé une opinion s'exprimer, donc on ne laissera pas non plus l'autre s'exprimer, ce qui est un jugement sur le contenu de l'opinion et donc ça ne serait pas justifié au regard du droit international. Ensuite, par rapport à la question purement sécuritaire, la ville de Sion fait référence à l'exemple de Lausanne. Alors, encore une fois, quand on fait une analyse, finalement, d'une restriction, est-ce qu'elle est proportionnelle, etc., il faut regarder le cas précis du lieu où on se situe. La situation à Lausanne est différente de la situation de Sion, qui est différente de celle de Berne. Donc, il faut que Sion, en fait, juge par rapport à sa propre situation et se référer à ce qui a pu se passer à Lausanne ou ailleurs, ce n'est pas non plus pertinent. Enfin, elle mentionne également que la police ne peut pas garantir la sécurité des participants parce qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour sécuriser un cortège. Et là encore, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est de chercher la mesure la moins intrusive. Alors, imaginons que même avec le délai de 2 mois, qui est celui de la demande d'autorisation, il ne soit pas possible en 2 mois d'avoir l'effectif nécessaire pour s'assurer de la sécurité du cortège. Alors peut-être que la mesure la moins intrusive serait de remettre en question d'avoir un cortège ou de revoir le parcours du cortège. Donc proposer par exemple un rassemblement statique sur une place, c'est souvent quelque chose qui nécessite un peu moins d'effectifs policiers. Donc il y a encore tout un panel de mesures qui auraient pu être prises et d'arriver directement à une interdiction, là ça paraîtrait disproportionné. Et enfin, il y avait un dernier motif qui avait été évoqué dans la décision, celui qui dit que les mêmes organisateurs tiennent déjà, de façon hebdomadaire, des rassemblements spontanés, et donc une autorisation supplémentaire ne paraît pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire dire que les mêmes personnes manifestent déjà une fois par semaine, donc elles n'ont pas à manifester ce jour-là en plus. J'en reviens à la liberté d'expression. Est-ce que le fait d'avoir le droit de donner mon opinion est limité au nombre de fois où je la donne? Est-ce que j'ai le droit de le dire que 3 fois? Est-ce que l'autorité peut me dire, bon, à partir de 10, on arrête d'exprimer la même opinion? Je pense que vous comprenez comme moi que ça ne fait pas beaucoup de sens et que ça ne permet certainement pas de justifier une interdiction de manifestation qui est vraiment la mesure la plus restrictive.
Pour finir sur une note un peu plus encourageante, en mai 2025, le tribunal cantonal fribourgeois a rendu une décision qui renforce le droit de manifester. Les organisateurs, organisatrices de manifestations à caractère politique dans le canton de Fribourg ne doivent plus supporter les frais de la police. Il aura fallu que les citoyens et citoyennes qui souhaitaient faire usage de leur droit de manifester refusent de payer ces frais et fassent recours pour changer la pratique. C'est un bel exemple qui montre qu'il vaut la peine parfois de se battre en justice pour faire valoir les droits humains.
Oui, alors ça c'est vraiment un super exemple, surtout que ces frais de police étaient particulièrement choquants. Si je peux me permettre 2 mots sur de quoi il s'agissait exactement, c'est-à-dire que les personnes qui organisaient une manifestation sous la forme d'un cortège, donc quelque chose qui se déplace, à chaque fois qu'un agent ou une agente de police été postés, par exemple, à un carrefour pour gérer la circulation, pour faire passer le cortège. En fait, il y avait un décompte horaire. Donc, à la fin de la manifestation, les organisateurs allaient recevoir une facture indiquant, voilà, deux policiers sur le rond-point X pour tant d'heures égale 800 francs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était comme si la police agissait comme une sécurité privée, comme si on n'était pas en train d'exercer un droit humain. Enfin, encore une fois, le droit humain, c'est comme la scolarité obligatoire pour les enfants, avec le droit à l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il doit être accessible pour tous. Ce n'est pas un service que me rend la communauté. En fait, l'État et l'État de droit, il est là pour garantir ça. Donc, ça fait partie de ce que couvrent nos impôts, finalement. Donc, ces frais de police étaient très, très choquants. C'est une excellente nouvelle que le tribunal et puis décider dans le sens du droit international des droits humains et revenir à une pratique plus conforme justement aux droits fondamentaux et à la Constitution fédérale, hein, parce qu'évidemment que la Constitution fédérale reprend ces principes de droit international. Et puis ça revient un petit peu à l'exemple que tu avais donné au début du podcast. Manuela Catani à Genève, elle fait la même chose, elle reçoit une amende de 950 francs et elle décide de recourir. Et on voit l'importance de ce type de recours, puisqu'elle a eu gain de cause, les Fribourgeois ont eu gain de cause. On a vu aussi à Neuchâtel des changements de la part des autorités par rapport au parcours des manifestations grâce à des recours au tribunal fédéral. C'est essentiel en fait de permettre au pouvoir judiciaire de corriger ce qui n'a peut-être pas été fait par les autorités exécutives. C'est très encourageant pour avoir une meilleure application du droit international en Suisse. Et surtout, ça prouve qu'il est encore très nécessaire de se battre pour ce droit de manifester aussi ici.
Et donc, on en revient au titre. Manifester en Suisse, c'est un droit qui a un prix. Merci beaucoup, Anita, pour ton temps et tes explications.
Merci à toi, Jeanne.
Article 7 est un projet de humanrights.ch, produit par podcastlab.ch. Article 7, nous vous parlons des droits humains en Suisse, est publié tous les derniers vendredis du mois, sur tous les canaux, sur le site de humanrights.ch et sur podcastlab.ch. Nous vous remercions encore énormément pour votre soutien à notre campagne de financement participatif, qui nous permet de continuer à produire des épisodes en allemand et de produire des épisodes en français. À la prochaine. Bonne écoute.